Se soumettre au gouvernement, les disciples du Christ sont en paix avec tous et ne cherchent ni vengeance ni changement extérieur, ils recherchent plutôt un changement intérieur personnel. Pour eux, le monde est en train de passer, et s'y impliquer est une perte de temps. Il leur est dit d'obéir aux lois de leur gouvernement et d'être soumis à leur gouvernement, quelle que soit l'oppression qu'ils exercent. Quand vous cesserez de résister au gouvernement ou à ses politiques, ou de vous préoccuper de qui fait quoi dans le gouvernement, vous serez étonné de la liberté dont vous jouirez. Les préoccupations temporelles sont vaines, comme je l'ai entendu du Seigneur en l'attendant. Tu peux passer ton temps à essayer de corriger le mal, ou tu peux passer ton temps à me chercher. Le fait de ne pas protester ou de ne pas résister au gouvernement ne signifie pas soutenir ou approuver le gouvernement ou ses politiques. Cela préserve et démontre seulement votre engagement à poursuivre la paix avec tous les hommes. Recherchez la paix avec tous les hommes et la sainteté, consécration, sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Rome 12, 18, si vous protestez ou résistez au gouvernement ou à ses politiques parce que vous pensez y avoir été appelé, veuillez lire les passages ci-dessous du Nouveau Testament qui nient de telles activités. Souvenez-vous qu'il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après les avoir lus, posez-vous la question, d'où vient l'appel? L'appel vient-il de l'Esprit du Christ en vous? Si vous pensez être appelé à faire quelque chose, je vous demande, où la Bible parle-t-elle d'être appelé, au sens où vous l'utilisez, être appelé, c'est être convoqué ou nommé. La Bible ne contient pas une seule référence à un appel, comme à quelque chose que Dieu vous demande de faire, sauf venir à lui. Quand il veut que vous fassiez quelque chose, il vous donne des commandements et des ordres, pas un sentiment, pas un désir, pas une porte qui s'ouvre, pas une inspiration, pas une attirance, ni un appel. Ce mot est brandi par certaines sectes pour justifier tout ce vers quoi quiconque ressente une inclination, comme étant un appel. Quand Dieu vous conduit à faire quelque chose, il vous dit, 1. Exactement quoi faire, et 2. Exactement quand le faire, il donne des commandements ou des ordres explicites, toute autre manière ne vient pas de lui. Quel gouvernement aurait pu être plus oppressif que le gouvernement romain qui a crucifié le Christ? Et pourtant, nous lisons qu'aucun mot de critique ou de protestation, encore moins de suggestion séditieuse, n'a jamais été prononcé par le Christ ou les apôtres, ni avant ni après. Le gouvernement romain était aussi constamment impliqué dans des guerres et des insurrections, mais aucun de ses disciples n'a jamais exprimé un mot de mécontentement à l'égard du gouvernement ou de ses politiques. La Bible enseigne aux chrétiens de rester non impliqués dans le monde, y compris dans toute activité politique, et de vivre en paix avec leur gouvernement et tous les hommes. Ci-dessous figurent des références bibliques qui soutiennent la soumission au gouvernement, que ceux qui peuvent entendre, entendent. L'apôtre Paul, dans Romains 13, dit à tous les chrétiens, « Que toute âme soit soumise aux puissances autorités établies, car il n'y a de puissance que de Dieu, et les puissances qui existent ont été établies par Dieu. » Les puissances qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui y résistent attireront sur eux la condamnation. Car les magistrats ne sont pas à craindre pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu recevras d'elle des louanges, car elle est ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, elle est ministre de Dieu, vengeresse pour exercer la colère sur celui qui fait le mal. Il faut donc lui être soumis, non seulement à cause de la colère, mais encore à cause de la conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les autorités sont les ministres serviteurs de Dieu, s'appliquant continuellement à cette fonction même. Rendez donc à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Note, cette soumission aux règles du monde ne s'étend pas à la soumission à une religion d'État imposée ou à des règles religieuses qui violent les commandements explicites de Dieu. Ne pas jurer, s'assembler et obéir à la voix du Seigneur lorsqu'elle est entendue. Pierre dit en 1 Pierre 2, 13-14, « Soumettez-vous, à cause du Seigneur, à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver ceux qui font le bien. Même les serviteurs ou employés reçoivent cet ordre, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, craignant Dieu. » Col 3, 22 « Quiconque prend les armes est averti par le Christ dans l'Apocalypse lorsqu'il dit « Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Ici est la patience et la foi des saints. » Rêve 13 dit « Nous savons que les querelles et les luttes viennent des convoitises qui combattent en vous, Jacques 4:1-3, convoitise dont le Seigneur peut nous purifier, et ainsi nous délivrer des créels et des combats. Nous savons que le diable est l'auteur des guerres, des combats, du meurtre et des complots. Lettre de George Fox ci-dessous, nos épées sont brisées et transformées en socs de charrue, et nos lances en serpes, comme cela a été prophétisé en Mic 4:3. Par conséquent, nous ne pouvons plus apprendre la guerre, ni nous lever contre une nation ou un gouvernement avec des armes extérieures. Le Christ nous dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force d'aller 1 mille, va avec lui 2 mille, fais un effort supplémentaire. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Car si vous n'aimez seulement que ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains n'en font-ils pas autant? » Matt 5:38, 47. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Matt 5:22. Ainsi le Christ nous enseigne à aimer tout le monde et à être doux comme des colombes et des agneaux. Il enseigne que la violence est déplorable à ses yeux. Et en Matt 26:53, le Christ dit à ceux qui l'arrêtaient, « Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et qu'il me donnerait aussitôt plus de 12 légions d'anges? Mais comment donc s'accompliraient les Écritures, selon lesquelles il faut que cela arrive ?» Non seulement l'Écriture ne se serait pas accomplie, mais son sacrifice pour le monde n'aurait pas eu lieu. Il précise encore pourquoi il ne résiste pas à son arrestation et à sa crucifixion en expliquant qu'en réalité il n'était pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais mon royaume n'est pas d'ici. Jean 18:36 Ainsi, le royaume du Christ n'est pas de ce monde, et ses disciples non plus ne cherchent pas leur récompense sur la terre, mais plutôt au ciel et dans les choses d'en haut. Et Paul, en 2 Timothée chapitre 2, 4, dit « Aucun soldat ne s'embarrasse des affaires de la vie ». Paul s'adresse à Timothée, compagnon de ministère et enseignant pour Christ, et lui dit de se tenir à l'écart des affaires du monde y compris de toute activité politique, mais d'être uniquement engagé dans la guerre de l'esprit contre les mauvaises convoitises et l'orgueil de la vie, dans le cœur mauvais de l'homme, afin de gagner le royaume du Christ, le royaume spirituel qui n'est pas visible pour ce monde. Par conséquent, ses serviteurs ne combattent pas, comme il l'a dit à Pilate, le magistrat qui l'a crucifié. Et ne regardait-on pas le Christ comme un semeur de sédition? Et n'a-t-il pas prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Voici ce que William Penn a dit au sujet de la soumission au gouvernement. Ainsi la foi et la patience ont succédé au combat, dans la doctrine et la pratique de ce peuple. Et ils ne devraient pas être odieux au gouvernement civil pour cela, puisqu'ils ne peuvent pas combattre pour lui, ils ne peuvent pas combattre contre lui. Mais bien qu'ils ne fussent pas pour combattre, ils étaient pour se soumettre au gouvernement, et non seulement par crainte, mais par motif de conscience, là où le gouvernement n'interfère pas avec la conscience, le croyant être une ordonnance de Dieu, et là où il est administré avec justice, un grand bienfait pour l'humanité. Tiré de l'introduction de William Penn au journal de George Fox. Ils obéissaient à toutes les lois, sauf lorsqu'une loi entrait en conflit avec leurs devoirs envers des commandements et des compréhensions venant du Christ, refusant de prêter serment, refusant de suspendre leurs réunions de culte interdites par la loi, et refusant de payer les dîmes décrétées par le gouvernement à des sectes officiellement approuvées qui les réclamaient, dans leurs droits géographiques, pour recevoir les dîmes. William Penn parle d'une époque où des milliers d'enfants de la lumière furent emprisonnés, des centaines jusqu'à en mourir, et jamais ils ne s'opposèrent au gouvernement. Jamais ils ne se rassemblèrent pour une autre raison que le culte ou les affaires de l'Église, CAD, le soulagement de la souffrance. C'était une époque de guerre civile sanglante qui tuait brutalement des familles entières, du gouvernement oppressif d'Oliver Cromwell, de plusieurs rois, de nombreux parlements en conflit, et de persécutions sévères dont 13 000 envoyés en prison, 1 000 tués par blessure ou emprisonnement, et 200 envoyés en esclavage. Mais il n'y eut aucune protestation des membres, hormis des lettres et des demandes personnelles et courtoises sur l'injustice des persécutions, jamais un groupe de personnes manifestant et protestant, même contre leur persécution, à plus forte raison contre une autre politique de l'un des nombreux gouvernements auxquels ils furent confrontés. L'apôtre Paul appuie son propos dans Romains 13, 3-5, 3 « Car les magistrats ne sont pas à craindre pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu recevras d'elle des louanges, 4 car elle est ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, elle est ministre de Dieu, vengeresse pour exercer la colère sur celui qui fait le mal. 5. Il faut donc lui être soumis, non seulement à cause de la colère, mais encore à cause de la conscience. Tout gouvernement devrait être si sûr de pouvoir ignorer les vrais chrétiens au sein de sa société, certain qu'il ne soulèverait jamais même une contestation contre lui, à plus forte raison un conflit armé, qu'il devrait pouvoir leur tourner le dos sans protection, se concentrant sur d'autres sujets de préoccupation, sans même une seule pensée anxieuse quant à sa sécurité. Les premiers Quakers, une fois suffisamment mûrs comme chrétiens, étaient envoyés sur les places de marché pour témoigner contre le mensonge, les maudes dispendieuses, l'avidité, l'immoralité sexuelle, les jurons, les faux prophètes, etc., ce qui leur valut de grandes persécutions. Les Quakers d'aujourd'hui, ayant oublié ce qu'est le péché, descendent plutôt dans la rue pour s'opposer aux forces armées de leur gouvernement, concluant manifestement que le seul mal de l'homme est de porter des armes, en contraste frappant avec les avertissements et les définitions du mal dans la Bible. Comprenez, ils témoignaient simplement contre le péché sur les marchés, et non contre des personnes qu'ils voyaient pécher, ils ne pouvaient pas voir l'avidité, l'immoralité sexuelle, le mensonge, la tromperie, etc. Tous ceux qui descendent dans la rue pour une insurrection, ou même pour critiquer autrui sur une question sociale ou politique, prenez garde, vous violez les commandements du Christ et son exemple. En tant que chrétien, il ne vous est permis de critiquer que les actions de ceux qui se disent chrétiens. Si cette personne est membre de votre Église, vous devez l'avertir par une série d'avertissements et d'appels gradués, et si elle ne se robe pas de ses actes, vous devez vous en dissocier et la mettre à l'écart. Mais vous n'êtes pas censé critiquer les gens en dehors de l'Église, comme Paul le dit, « Qu'ai-je à faire de juger ceux du dehors ? Eh, Dieu seul juge ceux du dehors. » 1 Cor 5, 12-13. Donc, si vous sortez confronter des gens sur une question politique ou sociale, même une manifestation pour la paix, oxymore en soi, en leur disant qu'ils pratiquent le mal par ce qu'ils font, vous vous rendez coupable de blâme et de jugement envers ceux qui ne servent pas Dieu. Quand vous avez suffisamment de l'Esprit de Dieu en vous, vous pouvez être poussé à prononcer des paroles venant de Dieu pour juger quelqu'un en particulier. Mais ce ne serait pas vous qui jugez, ce serait Dieu. Tout comme Jésus ne se jugeait pas lui-même, de moi-même je ne puis rien faire. Je juge selon ce que j'entends, Jean 5 et 30. Tout ce que je le dis comme le Père me l'a dit, Jean 12, 49, 50. Le Fils ne peut rien faire de lui-même par sa propre volonté, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, Jean 5, 19. Même les protestations contre l'armée n'ont aucun précédent chrétien. Considérez ces 4 témoignages, un Jean-Baptiste baptisant dans le désert, disant aux gens de préparer la voie du Seigneur par la repentance, et le peuple l'interrogeait, disant, « Que ferons-nous donc ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques donne à celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Les publicains vinrent aussi pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Luc 3, 10, 14, 2 dans son journal, « Nous avons des récits de George Fox convertissant beaucoup de soldats à la vérité, mais il n'a jamais dit à aucun d'eux de chercher un autre emploi, c'était au Christ de décider quand, et si, de le leur communiquer directement. » Extrait du journal, « Alors que j'étais encore dans la maison de correction, un cavalier soldat vint m'y voir et me dit que, tandis qu'il était assis dans l'église écoutant le prêtre, une très grande détresse s'était abattue sur lui, et la voix du Seigneur lui était venue disant, « Ne sais-tu pas que mon serviteur est en prison, va le trouver pour recevoir une direction. » Ainsi je parlais à son état, et son intelligence s'ouvrit. Je lui dis ce qui lui montrait ses péchés et le troublait à leur sujet, lui montrerait aussi son salut, car celui qui montre à un homme son péché est le même qui l'enlève. Pendant que je lui parlais, la puissance du Seigneur l'ouvrit, de sorte qu'il commença à avoir une bonne compréhension de la vérité du Seigneur et à être sensible aux miséricordes de Dieu. Il parla hardiment dans ses quartiers parmi les soldats et à d'autres, au sujet de la vérité, car les Écritures lui étaient très largement ouvertes, au point qu'il dit « Son colonel est aussi aveugle que Nabuchodonosor, de jeter le serviteur du Seigneur en prison. » Là-dessus, son colonel conçut de la rancune contre lui. Et au combat de Worcester, l'année suivante, lorsque les deux armées campaient près l'une de l'autre, deux hommes sortirent de l'armée du roi et défièrent deux hommes de l'armée du Parlement de se battre contre eux, son colonel le choisit, lui et un autre, pour relever le défi. Et lorsque, dans l'affrontement, son compagnon fut tué, il repoussa ses deux ennemis jusqu'à portée de mousquet de la ville, sans tirer sur eux un seul coup de pistolet. Cela, à son retour, il me l'a raconté en personne. Mais quand le combat fut terminé, il vit la tromperie et l'hypocrisie des officiers, et, étant sensible à la manière merveilleuse dont le Seigneur l'avait préservé, et voyant aussi où mène le combat, il déposa les armes. George Fox a été arrêté, emprisonné, traîné devant les tribunaux et escorté par des hommes en armes de nombreuses fois tout au long du journal, mais il ne leur a jamais dit un mot sur le fait que porter des armes serait mal. Beaucoup de soldats devinrent Quakers et restèrent dans l'armée. Beaucoup, comme celui-ci dessus, à un stade ultérieur de leur croissance chrétienne, devinrent incapables de faire du mal à leurs semblables et demandèrent à quitter l'unité ou un poste sans combat. C'est une affaire de conscience individuelle, après que Dieu a changé et enseigné chaque personne. William Penn avait entendu Thomas Lowe prêcher plusieurs fois avant de rejoindre la société. En Irlande, il entendit Lowe prêcher de nouveau, et il rejoignit. Ayant déjà assisté à plusieurs réunions en Irlande, un soldat entra dans l'une des réunions Quake et fit grand tapage. Alors William Penn alla vers lui, le saisit par le col et aurait voulu le jeter dans l'escalier, sans l'intervention d'un ou deux amis qui demandèrent à William de le laisser, lui disant que les amis étaient un peuple pacifique et ne voulaient pas qu'on fasse du désordre. C'est une preuve solide que les premiers Quakers ne prêchaient pas contre la guerre ni pour une paix extérieure, laissant cela à la conscience individuelle. De plus, au moment où il faillit jeter le soldat dans l'escalier en Irlande, Penn n'avait pas encore rencontré George Fox. Récemment convaincu de la vérité, il alla voir Fox et lui demanda s'il devait continuer à porter son épée. Fox répondit « Porte-la aussi longtemps que tu le peux ». Plus tard, rencontrant Penn sans son épée, Fox dit « William, où est ton épée ?»« Oh, dit Penn, j'ai suivi ton conseil. Je l'ai portée aussi longtemps que j'ai pu. » Fox avait délibérément laissé au Christ le soin de dire à Penn quand il devrait cesser de porter son épée, ce qu'il fit en effet. La lettre de Fox au roi Charles, qui sert de bas au mouvement actuel de protestation pour la paix, dénonçant le recours des Quakers à la force armée, se trouve ci-dessous. Cliquez pour aller la lire. Ici, Fox ne faisait pas la leçon au roi sur l'usage de la force, sauf contre les innocents. Il expliquait comment le roi n'avait rien à craindre des Quakers quant à l'usage de la force armée. Remarquez une phrase clé, totalement ignorée par ceux qui utilisent cette lettre, citée hors contexte, pour justifier leur protestation pour la paix. Ceci est un témoignage certain adressé au monde entier, de la vérité de nos cœurs sur ce point particulier. De même que Dieu persuade le cœur de chaque homme de croire, ainsi ils aussi peuvent la recevoir. Ceux qui tentent de forcer les autres à déposer les armes essaient de prendre la place de Dieu, qui doit changer le cœur d'un homme graduellement, pas à pas, jusqu'au point où il ne pourrait même pas frapper un homme qui l'aurait giflé, à plus forte raison prendre les armes contre quiconque a été créé à l'image de Dieu. Ce changement permet à un homme d'aimer ses ennemis, ce qui est impossible sans un cœur et une pensée nouveaux. 3. Cela est aussi en harmonie avec la manière dont le Christ réagit aux soldats avec lesquels il entra en contact. Souvenez-vous du centurion romain que les chefs juifs demandèrent au Christ d'aider. Le Christ l'admira grandement quand il dit « Je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi, même en Israël. » Nous sommes loin d'une critique de son métier, qu'il révéla librement sans aucune crainte de reproche. Certes, le Christ n'approuve pas la guerre en général, mais George Fox autorisa les propriétaires de plantations Quake à agir comme guetteurs pour avertir les autorités des îles lorsque des bandes de pirates s'approchaient pour piller, ce qui entraîna un rejet armé des envahisseurs, un rôle militaire non combattant. L'idée est que, de même que les premiers Quakers n'attaquaient pas les soldats ni leur armée, nous ne devrions pas non plus le faire. Ils reçurent même la permission d'aider à une action militaire défensive dans un rôle non combattant. 4. Le grand Quake des débuts, Isaac Pennington, écrivit au sujet de la protection des innocents, la fonction principale du gouvernement, où il dit « Dis pas cela contre le fait, pour des magistrats ou des peuples, de se défendre contre des invasions étrangères, ou de faire usage de l'épée pour réprimer les violents et les malfaiteurs à l'intérieur de leurs frontières, car l'état présent des choses peut l'exiger et l'exige effectivement, et une grande bénédiction accompagnera l'épée lorsqu'elle est portée droitement à cette fin, et son usage sera honorable. Et tant qu'il y aura besoin d'une épée, le Seigneur ne permettra pas à ce gouvernement ou à ses gouvernants de manquer d'instruments. » Isaac Pennington 1661, Pennington, cité hors contexte, est une autre justification favorite du mouvement de protestation pour la paix. Les Quakers modernes ont tordu la défense originale des premiers Quakers de leur refus personnel de porter les armes pour en faire un prétexte à une attaque sainte. Contre ceux qui portent des armes, tombant apparemment dans la sagesse du monde selon laquelle la meilleure défense est une bonne offense, et de tels détournements de logique se produisent toujours par petites étapes. Une personne est convaincue par le Christ, de sorte que sa conscience ne lui permet pas de porter les armes contre un autre être humain. De même qu'elle doit tendre l'autre joue plutôt que de se venger quand quelqu'un la frappe. Cette personne commence à dire aux autres qu'ils ne doivent pas non plus porter les armes, ne laissant pas l'enseignement au Christ, pour ce que l'Écriture n'interdit pas. Nulle part la guerre n'est interdite dans l'Écriture, car il est parfois nécessaire de protéger les innocents. Le groupe en fait une règle pour l'Église. L'Église commence alors à dire à ceux qui sont hors de l'Église que la guerre est mauvaise. L'Église commence à s'immiscer dans les affaires de l'armée, au titre de sa déclaration contre la guerre. La vraie religion consiste à visiter les veuves, les orphelins, et à se garder sans tache du monde. Tournez-vous vers l'intérieur, faites la paix au-dedans en recevant pleinement le prince de la paix, qui vous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Faites grand cas de votre temps, vous n'avez qu'un nombre limité de jours sur cette terre. Cherchez le renouvellement de l'homme intérieur jusqu'au point où vous êtes un avec le Christ et Dieu, avec la pensée du Christ, et sous son plein contrôle. Et de la lettre 359 de George Fox, et tenez-vous à l'écart de l'esprit du monde, agité, mécontent et troublé au sujet du gouvernement. Car vous savez que cela a toujours été notre manière de chercher le bien de tous, de vivre paisiblement sous le gouvernement, de rechercher leur bien éternel, leur paix et leur bonheur dans le Seigneur Jésus-Christ, et de déposer devant nos souffrances innocentes, nous qui avons souffert comme des agneaux et des brebis, sans résistance mais qui avons prié pour ceux qui nous persécutaient, nous mal. George Fox, si vous êtes persécuté en tant que chrétien tout en obéissant aux lois de votre pays, ce sera pour sa gloire, et grande sera votre récompense au ciel. Vous pouvez essayer de raisonner avec des autorités gouvernementales oppressives, mais il ne vous est pas permis de résister au gouvernement. Dès l'instant où un groupe de chrétiens commence seulement à discuter de la résistance à leur gouvernement ou à ses politiques, leur réunion a franchi la limite, passant du culte à l'action politique, trahissant ainsi l'esprit d'amour au sein du christianisme, qui est d'être en paix avec tous les hommes, y compris les employés ou les responsables du gouvernement. Bien que les chrétiens soient commandés de rester non impliqués dans ce monde, qui pour eux est en train de passer, il leur est commandé de, à mesure qu'ils voient le jour approcher la fin du monde, avec le retour personnel du Christ et de son royaume pour eux, s'assembler, afin de s'encourager mutuellement à pratiquer l'amour et les bonnes œuvres. Hebdis 23-25. Comme au temps des premiers Quakers, lorsqu'une loi fut adoptée interdisant l'assemblée de plus de 5 personnes en dehors de la religion, approuvée par l'État, puisque cette loi est en conflit direct avec un commandement de Dieu, on lui désobéit alors et on doit lui désobéir maintenant. Cependant, comme le faisaient les Quakers, les réunions devraient se tenir dans un lieu régulier, ouvert à l'inspection, non pas secrète, cachée, ou sous un prétexte comme manger ensemble. En étant ouvert, vous montrez que vous n'avez rien à cacher et vous déclarez n'avoir aucune opposition à votre gouvernement. Si des responsables du gouvernement se présentent, priez pour eux, accueillez-les, faites leur appel, montrez-leur votre paix et votre amour pour tous les hommes. Malgré des persécutions massives, c'est ainsi que les Quakers finirent par l'emporter et que les persécutions gouvernementales cessèrent finalement. De même, le chrétien ne peut contribuer à aucune activité religieuse qui viole sa conscience, y compris une religion d'État imposée. De plus, un chrétien ne peut pas jurer ni prêter serment, par exemple au tribunal, jurer de dire la vérité, impliquant qu'il ment normalement, ce qui est inadmissible pour ceux qui sont continuellement attachés à la vérité. Il ne peut pas non plus invoquer l'aide de Dieu, de la terre, de la Bible, de sa tête, ou de quoi que ce soit sur quoi on lui demande de jurer. Et bien sûr, un vrai chrétien a été tellement transformé qu'il ne peut même pas frapper une autre personne, l'image de Dieu, à plus forte raison prendre les armes pour combattre et tuer. Toutefois, s'il est incorporé dans l'armée, il peut encore servir avec soumission d'une manière non violente. L'engagement d'un vrai chrétien envers la paix instille une confiance telle dans son gouvernement qu'elle lui permet de l'ignorer, sûr de son engagement envers la paix et de ne jamais s'y opposer ni lui résister, quelle que soit la vulnérabilité du gouvernement. Enfin, un chrétien ne pourrait jamais approuver ni ignorer la persécution injuste de quelque groupe que ce soit parmi ses voisins. Ce raisonnement s'appliquerait au fait de cacher des Juifs dans l'Allemagne nazie pour les soustraire à la déportation vers les camps de la mort. Les lois qui violent la conscience humaine universelle doivent être désobéies, mais même des gouvernements responsables ne seraient pas des cibles de renversements chrétiens ou de séditions, ni même de protestations par des citoyens de leur pays. Des requêtes, oui, des protestations organisées, non. Pour de tels refus et de telles contraintes imposées à la conscience chrétienne, des chrétiens, à travers les âges, sont allés en prison et ont subi la torture, voire la mort. Cela ne signifie pas que les chrétiens doivent descendre dans la rue pour protester, mais plutôt continuer simplement à se réunir, refuser de contribuer à toute religion d'État imposée, refuser de jurer, et refuser de porter des armes, quelles qu'en soient les conséquences, même la mort. Et si un vrai chrétien, pas un hypocrite qui professe le Christ sans posséder le Christ, en suivant les ordres du Christ, est maltraité par des responsables du gouvernement, il lui est dit de leur pardonner et de ne pas chercher vengeance, car s'il souffre à cause de sa bonté, il sera récompensé au ciel. mais ceux qui font du mal à son peuple choisi et pacifique devront répondre au Créateur de tous, « À moi la vengeance, dit le Seigneur. C'est une chose terrible que de porter atteinte à la prunelle de l'œil du Créateur, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Les personnes responsables, sinon la structure du gouvernement tout entier, seront détruites. Si vous êtes un fonctionnaire persécutant de vrais disciples du Christ pour la seule raison qu'ils se réunissent pour adorer, prenez garde, le bras du Seigneur finira par s'étendre contre vous, vous regretterez profondément votre persécution des innocents, qui aiment tous les hommes et ne veulent aucun mal, ni à vous ni à votre gouvernement. » Extrait du journal de George Fox. Si tous ceux qui se disent chrétiens marchaient dans l'esprit du Christ, et qu'en lui ils mortifiaient le péché et le mal, ce serait un grand soulagement pour les magistrats et les dirigeants, et cela les délivrerait de beaucoup de soucis, car cela conduirait tous à faire aux autres ce qu'ils voudraient que les autres leur fassent, et ainsi la loi royale de la liberté serait accomplie. Car si tous ceux qu'on appelle chrétiens marchaient dans l'esprit du Christ, et que par lui l'esprit mauvais et ses fruits soient abattus en eux, alors, n'étant pas conduits par l'esprit mauvais, mais par le bon esprit du Christ, les fruits du bon esprit apparaîtraient en tout. Car à mesure que les gens sont conduits par le bon esprit du Christ, il les conduit hors du péché et du mal, contre lesquels l'épée du magistrat protège, et ce serait donc un soulagement pour les magistrats. Mais lorsque les gens s'égarent loin de ce bon esprit du Christ et suivent l'esprit mauvais, qui les mène au péché et au mal, cet esprit apporte aux magistrats beaucoup de tracas pour exécuter la loi sur les pécheurs et les transgresseurs du bon esprit. Cet esprit, qui conduit les gens hors de toute forme de péché et de mal, est un avec la puissance du magistrat et avec la loi juste. Car la loi a été ajoutée à cause de la transgression, et l'esprit qui conduit hors de la transgression doit être un avec cette loi qui est contre les transgresseurs. Ainsi, l'esprit qui conduit hors de la transgression est le bon esprit du Christ, et il est un avec les magistrats dans la puissance supérieure, et il la reconnaît ainsi qu'eux, mais l'esprit qui conduit dans la transgression est le mauvais esprit, et il est contre la loi, contre les magistrats, et leur cause beaucoup de travail pénible. La manifestation du bon esprit est donnée à chaque homme afin qu'il en profite, et nul ne peut profiter des choses de Dieu sinon par l'Esprit de Dieu, qui amène à renoncer à tout péché et à tout mal. Il est dit d'Israël, Nahum 9, « Le Seigneur leur donna son bon esprit pour les instruire, et pourtant ils se rebellèrent contre lui. » Si tous les gens prenaient garde à cette manifestation de l'Esprit que Dieu leur a donnée pour les instruire, elle les conduirait à abandonner toute forme de péché et de mal, d'inimitié, de haine, de malice, d'injustice et d'impiété, et à les mortifier. Alors, dans l'Esprit du Christ, ils auraient communion et unité, qui est le lien de la paix. Alors l'amour et la paix, qui sont les fruits du bon esprit, couleraient parmi tous ceux qu'on appelle chrétiens. Voici une partie principale de la justification du mouvement actuel de protestation pour la paix, la lettre de George Fox au roi Charles. Une déclaration des innocents et inoffensifs gens de Dieu, appelés Quakers, contre toute sédition, les comploteurs et les combattants dans le monde, afin d'ôter tout motif de jalousie et de suspicion, chez les magistrats comme chez le peuple du royaume, au sujet des guerres et des combats, présenté au roi le 21 jour du 11e mois, 1660. Notre principe est et nos pratiques ont toujours été de rechercher la paix et de la poursuivre, de tendre vers la justice et la connaissance de Dieu, de chercher le bien et le bien-être, et de faire ce qui tend à la paix de tous. Nous savons que les guerres et les combats procèdent des convoitises des hommes, comme en Jacques, chapitre 4, 1-3, dont le Seigneur nous a rachetés, et ainsi de l'occasion de la guerre. L'occasion de la guerre, et la guerre elle-même, naissent de la convoitise ou des hommes envieux, qui s'aiment eux-mêmes plus qu'ils n'aiment Dieu, convoitent, tuent, et désirent avoir la vie ou les biens des hommes. Tous les principes et pratiques sanguinaires, quant à nos fondements, nous les renions entièrement, ainsi que toutes les guerres extérieures, crêles et combats avec des armes extérieures pour quelque fin que ce soit, ou sous quelque prétexte que ce soit, tel est notre témoignage au monde entier. Et si quelqu'un objectait en disant, « Mais bien que vous disiez maintenant que vous ne pouvez pas combattre ni prendre les armes, pourtant, si l'esprit vous y pousse, alors vous changerez de principe, vous vendrez votre manteau et achèterez une épée, et vous combattrez pour le royaume du Christ. » À cela nous répondons, le Christ dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place, bien qu'il eût dit auparavant, que celui qui n'avait pas d'épée vende son manteau et en achète une, pour l'accomplissement de la loi et de l'Écriture, pourtant ensuite, quand il lui ordonna de la remettre, il dit, « Celui qui prend l'épée périra par l'épée. » Et le Christ dit à Pilate, « Ne sais-tu pas que je puis maintenant prier mon Père, et il me donnera sur le champ plus de 12 légions d'anges. » Et cela pouvait satisfaire Pierre, après qu'il eut remis son épée, lorsqu'il lui dit, « Celui qui l'a prise périra par elle, ce qui nous satisfait. » Matthieu 26, 52-53. Dans l'Apocalypse, il est dit, « Celui qui tue par l'épée périra par l'épée, et c'est ici la foi et la patience des saints. » Ainsi, le royaume du Christ n'est pas de ce monde, c'est pourquoi ses serviteurs ne combattent pas, comme il l'a dit à Pilate, le magistrat qui l'a crucifié. Et ne regardait-il pas le Christ comme un excitateur de sédition, et n'a-t-il pas prié, « Pardonne-leur ». Mais il se trouve que nous sommes comptés parmi les transgresseurs et parmi les combattants, afin que les Écritures soient accomplies. L'Esprit du Christ, par lequel nous sommes guidés, n'est pas changeant, au point de nous détourner une fois d'une chose comme étant mauvaise, puis de nous y pousser de nouveau. Nous savons certainement, et témoignons au monde que l'Esprit du Christ, qui nous conduit dans toute la vérité, ne nous poussera jamais à combattre ni à faire la guerre contre aucun homme avec des armes extérieures, ni pour le royaume du Christ, ni pour les royaumes de ce monde. Premièrement, parce que le royaume du Christ, Dieu l'exaltera selon sa promesse, et le fera croître et fleurir dans la justice, ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'épée extérieure, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4:6. Ainsi ceux qui utilisent quelque arme que ce soit pour combattre pour le Christ, ou pour établir son royaume ou son gouvernement, nous renions leur esprit, leurs principes et leurs pratiques en cela. Deuxièmement, nous désirons ardemment et attendons que par la parole de la puissance de Dieu et son action efficace dans le cœur des hommes, les royaumes de ce monde deviennent les royaumes du Seigneur et de son Christ, et qu'il règne et gouverne dans les hommes par son esprit et sa vérité, afin que par là tous les peuples de toute opinion et profession différentes soient amenés à l'amour et à l'unité avec Dieu et les uns avec les autres, et que tous en viennent à voir les paroles du prophète accompli, lui qui a dit, une nation. Ésaïe 2, 4, Michée 4, 3. Ainsi nous, que le Seigneur a appelés à l'obéissance de sa vérité, avons renoncé aux guerres et aux combats, et ne pouvons plus les apprendre. C'est là un témoignage certain au monde entier de la vérité de nos cœurs sur ce point, afin que, comme Dieu persuade le cœur de chacun de croire, il puisse le recevoir. Car nous n'avons pas, comme certains autres, recouru à des fables habilement inventées, et nous n'avons jamais renié en pratique ce que nous avons professé en principe. Mais dans la sincérité et la vérité, et par la parole de Dieu, nous avons travaillé à être manifestés à tous les hommes, afin que nous et nos voix soyons attestés dans le cœur de tous. Et puisque toutes sortes de mots ont été faussement dits de nous, nous disons ici la simple vérité de nos cœurs, pour ôter l'occasion de cette offense, afin que nous, étant innocents, ne souffrions pas pour les offenses d'autrui, ni ne soyons livrés en proie aux volontés des hommes pour ce dont nous n'avons jamais été coupables, mais que dans la droiture de nos cœurs nous puissions, sous l'autorité ordonnée de Dieu pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien, mener une vie paisible en toute piété et honnêteté. Car bien que nous ayons toujours souffert, et souffrions maintenant plus abondamment, nous savons que c'est pour la justice, car notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience, qu'en simplicité et en sincérité selon Dieu, non avec une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes conduits dans le monde. 2 Corinthiens 1, 12. Ce qui, pour nous, est un témoignage propre à convaincre nos ennemis. Car nous pouvons dire au monde entier, nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons usé ni de force ni de violence envers qui que ce soit, nous n'avons été trouvés dans aucun complot, ni coupables de sédition. Quand nous avons été lésés, nous n'avons pas cherché à nous venger, nous n'avons pas résisté à l'autorité, mais là où nous ne pouvions obéir par motif de conscience, nous avons souffert plus que tout autre peuple dans la nation. Nous avons été comptés comme des brebis destinées à la boucherie, persécutés et méprisés, battus, lapidés, blessés, mis au cep, fouettés, emprisonnés, traînés hors des synagogues, jetés dans des cachots et des prisons bruyantes, où beaucoup sont morts en chaîne, tenus à l'écart de nos amis, privés de la subsistance nécessaire pendant de nombreux jours, avec d'autres cruautés semblables. Et la cause de toutes ces souffrances n'est aucun mal, mais des choses relatives au culte de notre Dieu et à l'obéissance à ses exigences. Pour cette cause, nous offrirons librement nos corps en sacrifice plutôt que de désobéir au Seigneur, sachant que, comme le Seigneur nous a gardés innocents, il plaidera notre cause lorsqu'il n'y aura personne sur la terre pour la plaider. Ainsi, dans l'obéissance à sa vérité, nous n'aimons pas notre vie jusqu'à la mort, afin de faire sa volonté et de ne faire tort à personne dans notre génération, mais de rechercher le bien et la paix de tous les hommes. Celui qui nous a commandé de ne pas jurer du tout, Matthieu 5, 34, nous a aussi commandé de ne pas tuer, Matthieu 5, 21. Ainsi, nous ne pouvons ni tuer des hommes, ni jurer pour ou contre eux. C'est à la fois notre principe et notre pratique, et cela depuis le commencement, de sorte que si nous souffrons suspectés de prendre les armes ou de faire la guerre contre qui que ce soit, c'est sans aucun fondement de notre part, car cela n'est pas et n'a jamais été dans nos cœurs depuis que nous avons reconnu la vérité de Dieu, et nous ne le ferons jamais parce que c'est contraire à l'Esprit du Christ, à sa doctrine et à la pratique de ses apôtres, oui, contraire à celui pour qui nous souffrons toutes choses et endurons toutes choses. Et bien que des hommes viennent contre nous avec des gourdins, des bâtons, des épées tirées, des pistolets armés, et nous battent, nous taillatent et nous maltraitent, nous ne leur avons jamais résisté, mais nous leur avons présenté nos cheveux, nos dos et nos joues. Ce n'est pas un honneur pour la virilité ou la noblesse que de se ruer, armes et armes en main, sur des gens inoffensifs qui ne lèvent pas la main contre eux. Considérez donc ces choses, hommes d'intelligence, car les comploteurs, les fauteurs d'insurrection, les turbulents et les combattants, courant avec des épées, gourdins, bâtons et pistolets, les uns contre les autres, nous disons qu'ils sont du monde et qu'ils ont leur fondement dans ce monde injuste, dès la fondation duquel l'agneau a été immolé. Cet agneau nous a rachetés de ce monde injuste, nous n'en sommes pas, mais nous sommes héritiers d'un monde qui n'a pas de fin, d'un royaume où n'entre rien de corruptible. Nos armes sont spirituelles, non charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses du péché et de Satan, qui est l'auteur des guerres, des combats, des meurtres et des complots. Nos épées sont brisées en socs de charrue, et nos lances en serpes, comme il est prophétisé en Michée 4:3. C'est pourquoi nous ne pouvons plus apprendre la guerre, ni nous lever contre une nation ou un royaume avec des armes extérieures, bien que vous nous ayez comptés parmi les transgresseurs et les comploteurs. Le Seigneur connaît notre innocence en cela, et il plaidera notre cause auprès de tous les peuples de la terre au jour de leur jugement, quand tous les hommes recevront une rétribution selon leurs œuvres. Ainsi, dans l'amour, nous vous avertissons pour le bien de vos âmes, ne faites pas tort à l'innocent, ni aux petits enfants du Christ, qu'il tient dans sa main et chérit comme la prunelle de son œil, ne cherchez pas à détruire l'héritage de Dieu, ni à retourner vos épées contre ceux pour qui la loi n'a pas été faite, c'est-à-dire les justes, mais contre les pécheurs et les transgresseurs, afin de les contenir. Car ne sont ni artisans de paix ni amis des ennemis, et ne peuvent surmonter le mal par le bien, ceux qui font tort à ceux qui vous sont amis, ainsi qu'à tous les hommes, et qui désirent votre bien et le bien de tous les peuples sur la terre. Si vous nous opprimez, comme on opprima les enfants d'Israël en Égypte, si vous nous opprimez comme on le fit quand le Christ naquit, et comme on le fit aux chrétiens des premiers temps, nous pouvons dire que le Seigneur vous pardonne, et laissez le Seigneur traiter avec vous sans nous venger. Si vous dites comme le conseil dit à Pierre et à Jean, vous ne devez plus parler en ce nom, et si vous nous traitez comme on traita les trois enfants dont parle Daniel, Dieu est le même qu'il a toujours été, vivant au siècle des siècles, lui qui tient les innocents dans ses bras, ô ami. N'offensez pas le Seigneur et ses petits, et n'affligez pas son peuple, mais réfléchissez et soyez modérés. Ne vous précipitez pas à la hâte dans les choses, mais ayez souci et considérez la miséricorde, la justice et le jugement, c'est la voie pour prospérer et obtenir la faveur du Seigneur. Nos assemblées furent arrêtées et dispersées au jour d'Olivet, sous prétexte que nous complotions contre lui. Au jour du comité de salut public, on nous considéra comme des comploteurs voulant ramener le roi Charles, et maintenant nos réunions paisibles sont qualifiées de séditieuses. Que des hommes perdent ainsi leur raison et agissent à l'encontre de leur propre conscience, sachant que nous avons souffert toutes choses et que nous avons toujours été tenus pour des comploteurs, alors même que nous nous sommes toujours déclarés contre eux, tant de vive voix que par écrit, et que nous sommes nets de toutes choses semblables. Nous avons souffert tout du long parce que nous ne voulions pas prendre des armes charnelles pour combattre quiconque, et l'ont fait ainsi de nous une proie parce que nous sommes les innocents agneaux du Christ et ne pouvons nous venger. Ces choses sont laissées à vos cœurs pour y réfléchir, car nous sommes hors de toutes ces choses dans la patience des saints, et nous savons, comme le Christ l'a dit, « Celui qui prend l'épée périra par l'épée ». Matthieu 26, 52 et Apocalypse 13, 10. Ceci est publié par le peuple appelé Quakers pour satisfaire le roi et son conseil, et tous ceux qui ont quelque jalousie à notre égard, afin que toute occasion de suspicion soit ôtée et que notre innocence soit éclaircie. Post-scriptum, bien que nous soyons comptés parmi les transgresseurs, et livrés à des hommes grossiers et sans pitié, par lesquels nos réunions sont dispersées, où nous nous édifions les uns les autres dans notre très sainte foi, et prions ensemble le Seigneur qui vit éternellement, pourtant il est celui qui plaide pour nous en ce jour. Le Seigneur a dit, « Ceux qui craignaient son nom s'entretenaient souvent ensemble, comme en Malachie, et ils étaient comme ses joyaux. » C'est pour cette cause, et non pour quelque mal, que nous sommes jetés dans des trous, des cachots, des maisons de correction, des prisons n'épargnant ni vieux ni jeunes, ni hommes ni femmes, et livrés en proie aux yeux de toutes les nations, sous prétexte de sédition, de sorte que tous les gens grossiers se ruent sur nous pour s'emparer de nous. Pourquoi nous disons que le Seigneur pardonne à ceux qui nous ont ainsi traités, lui qui fait et fera que nous pourrons souffrir, et jamais nous ne lèverons la main contre aucun homme qui nous traite de la sorte, mais que le Seigneur. Car comment leur serait-il possible de nous rendre le tort qu'ils nous ont fait? Eux qui, auprès de toutes les nations, nous ont décriés comme séditieux ou comploteurs, nous qui n'avons jamais comploté contre aucun pouvoir ni aucun homme sur la terre, depuis que nous avons connu la vie et la puissance de Jésus-Christ manifestée en nous, lui qui nous a rachetés du monde et de toutes les œuvres des ténèbres, et des comploteurs qui s'y trouvent, par quoi nous connaissons l'élection d'avant la fondation du monde. Ainsi nous disons, que le Seigneur ait miséricorde de nos ennemis et leur pardonne ce qu'ils nous ont fait. Ah, faites aux autres comme vous voudriez qu'on vous fasse, faites à tous les hommes ce que vous voudriez qu'ils vous fassent, car cela n'est que la loi et les prophètes. Tous complots, insurrections et rassemblements séditieux, nous les renions, sachant qu'ils sont du diable, le meurtrier, sur lequel nous triomphons en Christ, qui était avant qu'ils fussent. Et toute guerre et combat avec des armes charnelles, nous les renions, nous qui avons l'épée de l'esprit, et tous ceux qui nous font tort, nous les laissons au Seigneur. Ceci vise à laver notre innocence de l'imputation jetée sur nous, que nous sommes séditieux ou comploteurs, ajoutés lors de la réimpression. Chers lecteurs, ceci était notre témoignage il y a plus de 20 ans, et depuis lors nous n'avons pas été trouvés agissant contrairement à celui-ci, et jamais nous ne le serons, car la vérité qui nous guide est immuable. Ceci est maintenant réimprimé pour les hommes de cet âge, dont beaucoup étaient alors des enfants, et demeure comme notre témoignage certain contre tout complot et tout combat avec des armes charnelles. Et si certains, en s'écartant de la vérité, en venaient à le faire, ceci est notre témoignage, dans la vérité, contre eux, il demeurera au-dessus d'eux, et la vérité sera dégagée d'eux. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.